Bonjour à tous, dans ce nouveau rendez-vous organisé par le Cercle des journalistes de la Lozère, bienvenue donc à tous nos auditeurs, une rencontre dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars, et donc... Pour l'occasion, un plateau impressionnant, un studio impressionnant. Aujourd'hui avec nous, 4 gendarmes, 4 policiers, 8 femmes en tout, à des grades et des stades de leur carrière très différents, à des âges aussi très différents, 8 regards sur ces fonctions de la force de l'ordre différents, une volonté aujourd'hui de réunir toutes ces femmes dans le studio du commandant Abinal, qui est venu notamment du commandant Abinal, et donc de partager tout ce regard, de faire entendre ces voix différentes et cette manière de vivre un métier différent ou pas d'ailleurs. Donc nous allons toutes les entendre aujourd'hui pour cette journée internationale du droit des femmes. On va commencer par exposer un petit peu la règle du jeu. Nous avons préparé avec nos collègues de la presse, Patrick Zimmermann, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Ludovic Terol, bonjour.
Bonjour Sandrine, bonjour Patrick, bonjour à toutes.
Bonjour. Nous avons donc préparé un jeu de 8 questions pour ces 8 femmes. Chacune d'entre elles vont répondre à une de ces questions. Les autres pourront évidemment intervenir pendant quelques 5 minutes qui sera imparti à chaque question. Et donc ce sera une manière sans doute de découvrir mieux leur métier, sans doute aussi de découvrir mieux l'enjeu d'être une femme dans des métiers de force de l'ordre. Et de toute façon, l'important c'est de leur laisser de la parole, de pouvoir les écouter. C'est ça qui est important aujourd'hui. On va donc commencer, rentrer directement dans le métier avec une première question qui va être posée, je crois, par Patrick Zimmermann.
Alors bonjour Véronique Bruyas.
Bonjour.
Vous êtes gendarme.
Oui, tout à fait. Enfin, presque. Je fais partie du corps des volontaires en gendarmerie. Donc c'est un statut qui correspond aux emplois jeunes, qui est un contrat de 5 ans.
Alors selon vous, qu'est-ce qui a primé sur le choix de votre métier ? Est-ce qu'on est gendarme ou est-ce qu'on devient gendarme ?
Je pense qu'on le devient. En fait, personnellement, je suis issue du monde universitaire. Et depuis mon entrée en université, je voulais m'orienter vers un métier qui s'ancre dans la société, qui soit vraiment utile, où je me sente valorisée. Et donc, du coup, je me suis orientée vers le métier de gendarme. Mais après, ça s'apprend au quotidien.
Pour les forces de l'ordre, c'est quelque chose qui était ancré en vous, cette volonté de servir la nation ?
Je pense. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais il fallait passer le cap.
La question subsidiaire, est-ce que vous aviez conscience de choisir un métier d'homme ?
Pas du tout. Pas du tout. Je ne me suis absolument pas posé la question. Après, vraiment, au moment où je me suis inscrite et où je suis rentrée en école, je me suis posé 2-3 questions par rapport à ça, en me demandant si j'aurais suffisamment de caractère, mais en fait, les a priori sont tombés, parce que, étant dans un domaine très administratif, au quotidien, je n'ai pas ce problème, quoi.
Peut-être à savoir autour de la table s'il y a certains d'entre vous qui avaient ce métier, on pourrait dire dans le sang, depuis toute petite, qui voulaient vraiment faire ça.
Qui peut répondre à ça ?
Bonjour, je suis Doriane Zambito, je suis MDL chef à la brigade de Marvechol. Pour ma part, depuis toute petite, non, mais mon papa fait ce métier. J'ai été fortement influencée par ça et surtout par le fait de le voir au quotidien, aider les gens. Ça paraît simpliste comme expression, mais on a plutôt ancré en nous la mission première de notre boulot. Voilà. Après, ça peut se traduire par l'exercice d'autres professions, et là, en l'occurrence, bon, moi, j'ai choisi la gendarmerie.
Et ça ne rebute pas justement de voir un père qui fait ce métier, parce que c'est quand même un métier difficile en soi ?
Non, absolument pas. Par contre, il a été le premier à me dire de ne pas le faire, dans la mesure où il sait que c'est assez difficile à assurer et à assumer au quotidien.
J'aurais aimé savoir si pour quelqu'un il y a eu un déclic franc un jour où on se lève et on dit tiens, j'ai choisi ma vie.
Je serai policier, je serai gendarme. Madame Abinal.
Pour ma part, en fait, lorsque je suis arrivée et que j'ai vu une proposition à l'époque qui était la NPE du concours de gardien de la paix, j'ai plutôt réagi en disant c'est le profil qui est le plus adapté à ma personnalité. on en parlait tout à l'heure avec mes camarades, en fait, j'aurais jamais pu être infirmière, par exemple. Parce que tous les jours, je me dis que on n'a pas, c'est un métier que je respecte énormément, mais on n'a pas la même, on n'a pas, c'est pas le même statut quelque part, c'est pas la même image que l'on a de soi. Alors parlant des pères, moi par contre, mes parents n'étaient pas du tout dans la profession, donc c'est pas une vocation, ça m'a pas été inspiré. Mais moi, j'ai énormément déçu mon père hein, quand je lui ai dit que je rentrais dans la police.
Et je repose la question sur le métier d'homme, même si effectivement on rentre dans le cliché et c'est une question cliché d'une certaine manière, mais est-ce que, j'imagine qu'on vous l'a posé et qu'on vous le dit régulièrement, est-ce que vous, quand vous avez embrassé cette profession, vous êtes dit, là je suis en train d'embrasser une profession qui est un métier de mec, les unes les autres hein.
Pour ma part, pas du tout.
Ça n'a pas été...
Jamais.
Voilà. Mmh. Nathalie Chaldereille ?
Non, alors pour ma part non plus. Par contre, je dois dire que j'ai conservé pendant longtemps dans mon bureau une affiche qui représentait deux gardiens de la paix en uniforme avec un képi. Donc c'est des uniformes qui n'ont plus cours depuis 1985, je crois, et qui effectivement indiquaient la police, un métier d'homme. Hein, voilà, c'était une façon de recruter à ce moment-là. Mais moi, je n'ai jamais eu conscience, non, de faire un métier réservé aux hommes, pas du tout.
Est-ce que sur cette question, est-ce qu'autour du choix du métier, de la vocation, l'une d'entre vous a quelque chose à rajouter ?
Oui, moi, pour ma part, il s'agit d'un métier d'homme, mais c'est un peu différent de la police dans la mesure où on a un statut militaire en gendarmerie. Donc, disons que c'est fortement, plus fortement ressenti chez nous. Ça ne va pas se traduire par des choses directes, mais on voit qu'il s'agit d'un métier d'homme, tout simplement. Quoi. Voilà. Et à nous d'assurer et de montrer deux fois plus nos compétences.
D'accord, hein, c'est intéressant. Très bien. Alors on va clore ce chapitre, peut-être, et passer à la deuxième question, Ludovic Terol.
Absolument, une question à Violaine Pichon concernant l'uniforme. Vous êtes quasiment toutes en uniforme aujourd'hui. Et moi, j'aurais aimé savoir si le fait de porter un uniforme permet de lisser les différences entre hommes et femmes, peut-être de rentrer un peu plus dans la fonction.
Bonjour, donc je suis la maréchale des logis Pichon-Violaine. Donc pour moi, à mon niveau, l'uniforme permet effectivement de lisser les différences dans le sens où on porte tous le même uniforme. Donc on est tous au même niveau, que ce soit les hommes ou les femmes. Maintenant, moi je travaille dans le corps des soutiens techniques et administratifs de la gendarmerie et on exerce exactement le même emploi. Et donc pour moi, ça ne change rien. Le fait d'être habillé pareil, on exerce les mêmes fonctions.
Est-ce que d'autres ont à répondre ? Il y a ici une policière qui n'a pas d'uniforme. Vous êtes venue sans votre uniforme ce matin.
Oui,
Nathalie Chaldereille.
Voilà, donc je suis capitaine de police, mais je ne porte pas d'uniforme. Alors je vais expliquer, il y a une petite anecdote historique à ça. Simplement, je suis rentrée dans la police en qualité d'inspecteur de police en 1989. Hein, c'était un corps donc, qui était dédié exclusivement à la police judiciaire. Et de fait, pour faire de l'investigation, bah, par principe, on est en civil, on ne porte pas d'uniforme. Et c'est quelque chose que j'ai gardé encore aujourd'hui. Je dois dire que je suis assez récalcitrante dans l'exercice de ma profession, au quotidien, à porter l'uniforme. Mais par contre, je dois reconnaître qu'effectivement, il est une façon d'identifier les gens et de les positionner au sein ou de la population ou même au sein des commissariats ou des gendarmeries. C'est vrai qu'on identifie tout de suite les gens. Bon, moi, j'ai cette petite possibilité qu'on ne sache pas toujours exactement qui je suis et ce que je fais. Donc, ça peut être un avantage quelquefois.
C'est votre camouflage.
Si vous voulez.
Et sur le fait de lisser les différences, vous avez... Voilà. Est-ce que, justement, ça ne permettait pas de lisser la différence ou, au contraire, vous, c'était votre manière d'assumer votre différence ? Parce que c'est ça ce qui se cache autour de cette question. Est-ce que voilà, le fait de choisir de ne pas porter d'uniforme, c'est de dire je choisis aussi d'afficher une féminité
Non, parce que je pense qu'il y a, vous pouvez voir autour de cette table, que les femmes qui sont en uniforme sont aussi très féminines. Hein. Je ne crois pas que ce soit lié à ça. Parce qu'il y a des femmes qui sont en civil qui peuvent être très masculines, au contraire, chercher à ressembler à des hommes. Je ne crois pas que ce soit par rapport à la féminité. d'activité. Non, c'est simplement par rapport à l'exercice du métier lui-même d'investigation. Il me semble que c'était... ce choix-là. Par contre, je dois reconnaître que on est dans des corps qui sont hiérarchisés et que le fait de porter un uniforme permet aux gens qui travaillent dans les services d'identifier tout de suite le grade de celui qui leur parle quand il a un uniforme. Ce qui est un défaut, effectivement, quand on est en civil.
Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question, une réponse à rajouter autour de cette question d'uniforme ? Madame Abinal.
Alors, pour ma part, je suis rentrée
dans la police. Vous êtes en uniforme, hein ?
Alors, aujourd'hui, mais je suis rentrée dans la police comme gardien de la paix. Puis, j'ai délibérément choisi l'investigation aussi à un moment de ma carrière, c'est-à-dire passer le concours d'inspecteur de police. À ce moment-là, j'ai fait le choix d'être inspecteur de police et pas officier de police. Donc, j'ai abandonné l'uniforme pour travailler en civil. Mais c'est plus la matière qui m'a tirée, c'est-à-dire l'investigation, que de basculer dans le commandement. Quand en 1994 est arrivée l'uniformisation des corps, la réforme des grades, des corps et des carrières dans la police nationale, tout le monde a adopté la hiérarchisation officier et gardien. Et là, les circonstances de ma carrière m'ont amené à reprendre l'uniforme et ça m'a posé aucun problème. Maintenant, c'est vrai, moi je pense que ça aide à lisser les différences. Ça paraît évident. Mmh. Puisque le grade en uniforme, on a une identité par rapport au grade. Et la définition, elle est sur le grade, elle n'est pas sur la qualité homme ou femme.
Très bien, donc ça insiste sur le grade. On passe à la troisième question, si ça vous va, maintenant. Une question qui est adressée à Nathalie Chaldoreille. Est-ce que le fait, donc vous allez vous présenter, et ensuite vous allez répondre à cette question, est-ce que le fait d'être une femme change votre manière d'exercer ? On entend dire, par exemple, que les femmes sont plus sévères, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'elles sont aussi plus à l'écoute parce qu'elles seraient habituées à être à l'écoute, par exemple, de leurs enfants, donc plus habituées à être à l'écoute d'un suspect, par exemple, ou d'une victime ? Est-ce que c'est des choses que vous entendez ?
Donc, Nathalie Chaldoreille, hein, j'ai 47 ans, je suis donc capitaine de police, chef de la brigade de sûreté urbaine au commissariat de Mende, c'est-à-dire l'unité qui s'occupe des enquêtes judiciaires. Je ne sais pas si mes enfants, s'ils m'écoutent, penseront que je suis beaucoup à leur écoute, mais bon, je suis sans doute plus à celle des suspects, effectivement, et des victimes. Est-ce que le fait d'être une femme change la manière d'exercer le métier de policier, en l'occurrence ? Écoutez, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais été un homme, donc je ne sais pas comment les hommes perçoivent cet exercice. Moi, je ne crois pas que c'est une question de sexe. Je pense que c'est plus une question d'individu, de comportement, mais qui n'est pas lié au fait qu'on soit un homme ou une femme. Je pense que les femmes, par contre, elles ne sont pas plus sévères, mais je pense que quelquefois, elles sont plus justes. Elles ont une vision plus objective, peut-être, des situations. Et elles ne sont pas forcément plus compassionnelles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les hommes.
Vous dites plus juste, parce qu'elles ont une autre manière d'écouter, ou je ne sais pas.
Oui, je pense qu'elles elles regardent les choses de manière plus objective. Par exemple, dans une enquête, c'est vrai qu'il faut prendre en compte la victime, hein, c'est très important, mais notre rôle, c'est aussi de prendre en compte tous les faits qui se sont passés, pourquoi est-ce que c'est arrivé, etc. On ne peut pas se cantonner simplement à une vision de la situation. Il faut avoir un angle plus large, je pense. Hein, il me semble que les femmes ont cette possibilité d'avoir un regard plus élargi que les hommes qui quelquefois sont plus peut-être prennent plus fait et cause pour la victime, ce qui est normal, mais sans élargir leur point de vue.
Ce qui se cachait derrière cette question, c'était de se dire au final, ce qui est bien, c'est la diversité.
Tout à fait.
C'est plusieurs matières, plusieurs manières de regarder une situation, plusieurs manières. Ça, j'imagine que c'est quelque chose. Vous estimez que un regard d'homme vous apporte comme vous apportez un regard
bien
sur
sûr,
une enquête.
Bien sûr, je suis très attachée à la complémentarité et au fait qu'il ne faut pas hésiter à laisser la place. Hein. Par exemple, dans une audition de suspect, il y a des fois, il y a un bon feeling, ça passe bien, et puis d'autres fois, pas du tout. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, soit à laisser la place à un autre policier, qu'il soit homme ou femme. Hein. Il ne faut pas persister dans l'idée « je suis une femme, il faut que j'y arrive
voilà. ». Alors, est-ce que ça fait réagir certaines sur... Madame Abinal.
Alors, moi, je pense aussi que ce qui est déterminant, c'est la façon dont on va être perçu par notre interlocuteur.
Le regard.
Le regard de l'autre qui peut induire finalement des comportements, qu'on soit homme ou femme. Alors, on peut très bien imaginer, moi je l'ai rencontré dans l'investigation, hein, le mis en cause qui est entendu par une femme va essayer de la faire réagir sur « mais vous avez des enfants, peut-être que vous pouvez mieux comprendre, mettez-vous à ma place ». Enfin, vous voyez, en faisant appel finalement à des réactions que l'on attend d'une femme. Après, nous, on a la chance de pouvoir s'en tenir quand même à des procédures et je ne pense pas qu'il y a vraiment, vraiment de différence entre un homme et une femme sur l'investigation.
Nathalie Feldorey,
oui, je voudrais simplement revenir pour le fait d'être davantage à l'écoute. Peut-être que ça vient aussi du fait que physiquement, on ne s'impose pas de la même façon qu'un homme. Hein, donc, de fait, on est obligé de développer des stratégies un petit peu différentes. Et du coup, on écoute davantage les gens, sans doute on est plus peut-être sur le dialogue dans certaines situations.
N'y a-t-il pas de différence entre les physiques de femmes? J'allais dire, parce qu'on peut parler de rapports différents entre hommes-femmes par rapport aux prévenus, mais chez les femmes elles-mêmes, n'y a-t-il pas plusieurs armes que vous utilisez? Alors je me tourne vers toutes, est-ce qu'on fait toujours un rapport de force? Est-ce que le physique va jouer d'une façon ou d'une autre en fonction de qui on est?
Je pense que qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il faut s'assumer en tant qu'homme ou en tant que femme, assumer ses forces, assumer ses faiblesses, et de cette manière-là, on se sentira plus assuré. Après, il est certain que vous allez avoir certaines personnalités qui vont jouer sur le fait que vous appartenez à un sexe ou à un autre, mais dans tous les cas, à partir du moment où on s'assume, je pense que on a la suite qui va bien tourner. Voilà.
Très bien, on arrive à la fin du temps. Ça fait 4 minutes et 56 secondes exactement que nous parlons justement de ces différences d'exercice. Et nous passons à la quatrième question posée par Patrick.
Alors je vais m'adresser directement à Doriane Zambito encore. Est-ce que dans votre parcours, dans les différents métiers que vous avez exercés au sein de la gendarmerie, il y a des fois où vous avez eu l'impression, ou plus, qu'on vous cantonne à des rôles bien spécifiquement féminins? Audition des femmes, secrétariat, ou... Alors je provoque exprès. Hein.
Audition des mineurs, entre autres.
Bon, voilà,
donc, pour rentrer dans les clichés.
Donc rebonjour, je vais me présenter. Donc je suis la maréchale des logis chef Zambito Doriane. Ça fait 14 ans que je suis rentrée en gendarmerie. J'ai exercé pendant environ 10 ans dans les Pyrénées-Orientales, un an en Bretagne, et me voici dans notre belle Lozère. C'est un retour pour moi, puisque mon papa a exercé ici au début de sa carrière. Donc actuellement, je suis à la brigade de Marvejol. J'exerce les fonctions de commandant de brigade par intérim. Et pour ce qui est de ma situation personnelle, je suis maman de 2 enfants, de 4 ans et demi et de 7 mois. Voilà. Donc pour répondre à votre question, effectivement, pas régulièrement, mais assez souvent, oui, on est cantonné à des rôles de femmes. Bon, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit avant. Mais c'est vrai qu'on va plus demander nos services et nos compétences dans le cadre d'auditions de mineurs victimes, dans le cadre d'auditions de femmes victimes notamment de violences intrafamiliales. Mais dans la mesure, je pense, où pour beaucoup on est déjà maman, où on a quand même une sensibilité à fleur de peau, pour la plupart par rapport aux hommes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sensibles, mais d'une manière différente. Donc effectivement, on va plus nous solliciter pour ce genre de mission. Voilà.
Donc finalement, vous n'avez rien en moins par rapport aux hommes, mais un plus. Je m'adresse à la salle.
Non, je souhaite juste répondre d'abord. Je ne pense pas qu'on a un plus. Je pense que de toute façon, l'homme et la femme sont faits, créés de manière différente. Et voilà, complémentaires. Et c'est ce qu'on disait avant. À partir du moment où on s'assume en tant qu'homme ou en tant que femme.
Est-ce que des fois, ça vous agace qu'on vienne vous chercher, vous, pour auditionner la femme battue ?
Oui. Oui, parce que justement, on est femme également et qu'on a cette sensibilité-là aussi et qu'on peut se mettre beaucoup plus à la place de la personne qu'on a en face de soi. Oui. Je dirais plus ça encore pour les questions de mineurs victimes de toutes choses. On ne va pas basculer dans le tragique, on n'est pas là pour ça, je pense, mais c'est très difficile à assumer quand vous rentrez le soir chez vous et que vous vous posez un petit peu et que vous essayez de repenser à ce que vous avez fait la journée. Mmh. Voilà.
Commandant, Madame Abinal, vous aviez quelque chose à rajouter sur ces métiers, enfin ces fonctions réservées aux femmes, ou en tout cas où les femmes seraient plus... apte.
Alors, moi, j'ai eu la chance dans ma carrière de faire un passage à la Brigade de protection des mineurs de Paris. Durant 8 ans et demi, donc, j'ai été au cœur du métier du mineur victime, puisque c'est ce par quoi est saisie la Brigade des mineurs de Paris. Et il faut savoir que cette brigade est composée de plus d'hommes que de femmes. Et que, indistinctement, hommes et femmes exercent exactement le même métier. Ce qui détermine... Ce qu'évoquait tout à l'heure le lieutenant Chadorey, ce qui détermine qu'une enquête nous oriente, qu'une audition soit faite plutôt par un homme que par une femme, c'est finalement la victime et le ressenti par rapport aux mises en cause, si c'est à mise en cause. Mais moi, j'ai toujours rencontré des hommes qui ont entendu des mineurs victimes, femmes, victimes de viol, victimes de... Et ça n'a jamais, jamais fait d'opposition. On n'a plus ce cliché où le mineur dit...
Je
veux pas parler à un homme. En 8 ans et demi de mineur, je ne l'ai jamais rencontré.
Parmi les jeunes femmes qui sont en train de commencer leur carrière dans la police ou dans la gendarmerie, mais est-ce qu'on a essayé de vous amener vers des fonctions ou pas, ben voilà, est-ce que certaines fonctions sont plus réservées ou on se trompe et c'est pas vrai?
MDL Pichon, pour ma part, au niveau administratif, il n'y a pas de différence. Pour ma part, j'ai choisi l'administratif, mais j'aurais très bien pu choisir l'opérationnel également. Et il y a autant de personnel masculin que féminin sur les postes qu'on imagine d'ailleurs plutôt féminins à la base, qui sont type secrétariat ou gestion du personnel, alors que c'est quasiment égal en termes de quantité de postes, donc non.
L'aspirante Véronique Bruyas.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ma collègue pour l'avoir vécu. Je peux vous assurer que dans le domaine administratif, tant qu'on fait la preuve de ses compétences, c'est ça qui passe avant toute chose.
Les compétences.
Voilà.
Le mot-clé de cette question, les compétences au final. C'est ça qui détermine. Patrick.
Est-ce que ce que vous venez d'évoquer est vrai à tous les grades de la hiérarchie ?
Patrick.
Alors peut-être je vais me tourner vers les gens qui sont dans l'encadrement.
Mm-hmm. Patrick évoque en sous-titre le fameux plafond de verre. Hein,
on
ne pourrait pas monter. Au départ, c'est bon, l'égalité, l'équité est pareille. Et puis au fur et à mesure, plus c'est compliqué pour les femmes de grimper. Alors. Madame Aminal, sur cette question.
Moi, j'ai la chance, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir commencé comme gardien de la paix. Donc, à la base de notre métier, chacun des grades que j'ai passé, je n'ai jamais été confrontée à une discrimination sur la base du sexe. Ça paraît évident. Encore une fois, hein, sur la base des compétences. Hein, peut-être qu'à un moment donné, j'ai été moins performante qu'un collègue masculin et que voilà. Mais non, il n'y a pas eu de limite par rapport à la qualité masculin ou féminin.
Très bien. Alors Ludovic va passer à...
Mais justement, je vais rester avec le commandant Abinel. Justement, on parle de limite. Est-ce que... Parce que vous êtes quand même dans un métier de rapport de force, on l'a dit tout au long de ce début d'émission, et donc un métier physique. Est-ce que la condition physique, justement, était un frein pour exercer cette profession, à la base et après ?
Donc, je suis le commandant Abinal Marie-Christine, j'ai 54 ans, 30 ans de un parcours professionnel de 30 ans déjà. Je suis mariée et j'ai un enfant. Et je suis grand-mère depuis peu. Voilà, et ça, j'ai fait tout le tour du chapitre.
C'est fait. Félicitations.
Alors, la condition physique, la condition physique, elle est déjà inhérente à chaque individu. Alors, une femme peut être en très bonne condition physique et un homme en condition physique médiocre à un moment précis de sa carrière. Dans ces cas-là, il aura un système de réaction qui sera différent en fonction de son niveau de condition physique et non pas en fonction de sa qualité d'homme ou de femme. Bon, il ne faut pas nier quand même que potentiellement, une femme ne va pas réagir obligatoirement tout de suite avec la force. Elle s'orientera plutôt vers... on est meilleure négociatrice peut-être, sans dire qu'on en a l'exclusivité, hein, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on utilisera d'autres armes que la force. Maintenant, la condition physique, ce n'est pas que la force. Hein. La condition physique, c'est aussi la résistance. Et je pense que la femme est capable d'être aussi résistante que l'homme. Dans le parcours professionnel, je pense que policiers et gendarmes, la première épreuve que l'on est, ce sont des épreuves physiques. Donc déjà, pour accéder à nos métiers, on nous demande des qualités physiques. Alors ces qualités physiques, elles ne sont pas égales, bien entendu, mais on ne demande pas non plus à un champion du monde d'avoir les performances d'un athlète occasionnel. Donc tout est relatif par rapport à des règles physiologiques, par rapport à un niveau déterminé. Et on ne demande pas moins de qualité physique à une femme qu'à un homme. Tout au long de la carrière, la femme, comme l'homme, est tenue d'entretenir sa condition physique. Et elles le font sans... Si, elles le font. Pas moins que les hommes, toujours.
Et au départ, inconsciemment peut-être, est-ce qu'on ne se dit pas, oulala, je m'embarque dans un métier qui est quand même difficile physiquement, qui va... où le rapport de force va être présent tout au long de ma carrière. Est-ce qu'on n'a pas ce frein à la base pour quand on rentre dans ce métier ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce métier-là se définisse par rapport à la qualité physique et au rapport de force. Les circonstances dans lesquelles on intervient physiquement ne sont pas si fréquentes que ça. C'est pas vraiment ce à quoi on est confronté quotidiennement. Maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est un métier facile, hein. C'est un métier qui exige des décalages horaires, hein, comme mes camarades pourraient l'exprimer. Ça, c'est difficile. C'est un métier qui nécessite, de temps en temps, c'est sûr que pour porter un brancard, transporter une personne qui souffre ou quoi que ce soit, si vous avez deux hommes, vous allez laisser le change à l'homme. Et de toute façon, spontanément, ils vont le faire parce que la répartition, elle se fait comme ça. Mais moi, je l'ai fait volontairement. Enfin, je veux dire, je me suis pas retranchée derrière ma condition de femme pour ne pas affronter ces situations toujours.
Justement, est-ce que de temps en temps, on n'a pas envie aussi de se dépasser et de montrer qu'on est capable, qu'on n'est pas... que le brancard, on peut le soulever?
Alors, pour ma part, j'ai jamais fonctionné comme ça. Tout simplement parce que je ne me suis jamais posé la question si ma condition de femme devait générer un type de mission ou pas. J'ai eu la chance de participer au premier stage de moniteur ouvert aux femmes en qualité de moniteur de sport dans la police nationale. C'était un stage de 6 mois qui était très dur, qui sollicitait vraiment, vraiment énormément de qualité. Quand je suis arrivée à ce stage, quand j'ai postulé, je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais pouvoir tenir ce stage, si j'allais... En fait, je suis arrivée, j'étais au milieu de 16 garçons et les choses se sont ordonnées d'elles-mêmes. Bon, c'est sûr qu'ils n'avaient pas tout prévu, hein. Ils avaient oublié que la femme ne pouvait pas faire des barres parallèles et des anneaux, donc j'ai dû leur dire stop.
Ça, c'est pas possible.
Là, je ne vais pas jouer. Donc, je préfère travailler sur la poutre et puis les barres asymétriques. Ils ont convenu que, puisque c'était une épreuve sportive, ordinairement, aucune femme ne faisait de barres parallèles et d'anneaux. Donc, effectivement, il a fallu que j'aille trouver à l'extérieur mes enchaînements. Mais on ne m'a pas contrainte, on ne m'a pas mise en échec parce que je revendiquais justement cette différence. Vous voyez, on respecte cette différence. Maintenant, l'engagement, il était équivalent.
Alors, autour de la table, est-ce que ça fait réagir les unes les autres, ce rapport au corps, ce rapport à la condition physique? Est-ce que l'une d'entre vous...
Oui, chef Zambito, je dirais qu'effectivement, on ne met
met pas, on ne met pas le, sur le tapis le fait d'être une femme. Quoi qu'il en soit, bon, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'on est quand même moins, moins de candidates à postuler pour ce genre de poste qu'au niveau des hommes. Mais je crois que c'est un défi. C'est un défi si tel est l'esprit à ce moment-là. Il faut rentrer dans le jeu et puis montrer qu'on est tout aussi capable que quelqu'un d'autre.
Que quelqu'un d'autre sans discrimination, voilà,
c'est volontaire.
Il faut pas se donner de limites.
Véronique Bruyès.
Et personnellement, moi, pour être sortie d'école il y a très peu de temps, dans mes souvenirs, on insistait surtout sur le fait qu'on était militaire avant tout. Et au plan physique, on avait énormément d'épreuves physiques, comme disait la commandante Abinal. Et donc, il fallait, en fait, il nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes dans toutes les situations. Et on nous disait pas, vous êtes une fille, vous êtes un homme, donc vous ne pourrez pas faire ci ou vous ferez cela. C'était vraiment indéterminé. Au contraire, on nous disait, ne pleurez pas sur vous-même, vous êtes militaire, vous avancez. Voilà.
Allez-y.
Bonjour, je suis Valérie Froment, brigadier chef, j'ai 44 ans. Et pour rebondir sur ce que dit la collègue, effectivement, moi également, quand j'ai passé mes unités de valeur pour être brigadier chef, que ce soit en boxe, en self-défense, en tir ou pour l'épreuve d'armement, en étant femme, le jury que j'avais en face de moi était essentiellement composé d'hommes et ils me disaient, vas-y, par rapport aux collègues masculins qui attendaient pour passer les mêmes examens, ils m'aidaient.
Stimulaient.
Ils me stimulaient, ils me disaient, c'est pas parce que t'es nana qui arrivera pas. Et en boxe, c'est pour ça qu'on essaye de se dépasser. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça.
Mmh. Ludovic a une question complémentaire.
Il y a des femmes dans les jurys justement, parce que vous dites composé uniquement d'hommes, voilà un poste qui...
Moi, quand j'ai passé les unités de valeur, enfin moi j'étais à Paris, j'ai fait 18 ans à Paris, il n'y avait aucune femme. Pour le jury de sport, je parle essentiellement de tout ce qui était physique. Pour l'UV4, qui est l'UV de commandement, là il y a plus de femmes. Mais au niveau sport, j'en ai pas vu.
Le commandant Abinal a envie de répondre.
Alors je regrette vraiment de ne pas avoir été à Paris au moment où elle a passé ses unités de valeur, parce qu'effectivement elle aurait pu m'avoir dans son jury. Non, pour quelle raison il y a moins de femmes? Parce que de toute façon, pour être jury dans ce contexte-là, il faut avoir les qualifications ad hoc, et vous l'avez bien compris, hein, même si ces stages-là, ces formations se sont ouvertes aux femmes, il y a encore pas trop de femmes qui postulent. On est bien d'accord, qui postulent sur ces postes-là, et c'est la raison pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de femmes dans les jurys.
On va passer à la sixième question qui est adressée à Valérie Froment. Vous allez vous présenter, allez-y, présentez-vous.
Donc, brigadier chef Valérie Froment, je suis née à Nancy, en Lorraine, et j'ai passé le concours de la police en 92, et je suis partie à Marseille, à l'école de police de Marseille, en 93. À ma demande, j'ai intégré la brigade des chemins de fer créée par Daniel Thierry en 1994 et je suis restée 18 ans sur Paris parce que c'est un poste, un endroit où je m'épanouissais largement. Et je suis mutée en Lozère depuis, à ma demande également, depuis septembre 2012.
D'accord, très bien. Bon, alors, pour vous, qui avez cette longue carrière, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes femmes qui voudraient commencer une vie dans la police ou qui rêveraient ou qui... voilà. Et ensuite, il y a la petite question subsidiaire qu'on posera tout à l'heure. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux hommes qui travaillent avec vous? Mais on en parlera. Parlons des jeunes femmes d'abord.
Donc, pour revenir à mon parcours personnel, moi, je n'étais pas du tout partie pour être dans la police nationale. J'ai travaillé dans la publicité parce que j'ai fait des études d'art graphique. Donc, dès que j'ai eu mon bac professionnel, j'ai été embauchée. Et j'ai fait deux agences de publicité à Nancy. 2 ans dans une, j'ai été licenciée pour motif économique. J'ai retrouvé du boulot juste après. Et j'ai fait 2 ans également et j'ai été relicenciée pour motif économique. Donc,
Vous avez dit, ça suffit.
Voilà. Puis en plus, quelque part, on m'avait demandé à 16 ans mon parcours professionnel. Qu'est-ce que tu veux faire à 16 ans? On ne sait jamais trop ce qu'on veut faire à 16 ans. Donc j'avais plus de travail, j'avais été licenciée, donc j'ai regardé sur le journal local, Est Républicain. Il y avait une toute petite annonce minuscule où c'était marqué « Préparer le concours de gardien de la paix, un numéro de téléphone ». J'ai appelé, Je me suis inscrite à 4 autres concours de la fonction publique. Je me suis dit, le premier qui me répond, j'y vais. Et c'est la police nationale qui m'a répondu. J'ai tenté le concours à Metz et je l'ai réussi. Je suis partie à l'école de police à Marseille. Voilà, donc moi, ce n'était pas vraiment une vocation, mais ça ne m'empêche pas d'aimer mon métier et de le faire le mieux possible. De le faire au mieux, même si ce n'était pas du tout ce que je voulais faire à l'origine. Et pour le conseil à donner aux jeunes femmes qui souhaitent rentrer dans la police ou la gendarmerie, moi je leur dis, suivez votre chemin. Si c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, faites-le, n'écoutez pas les autres et foncez, quoi.
Est-ce qu'il y a des clés quand même? Parce que voilà, est-ce qu'il faut savoir des petites choses? Est-ce qu'il faut être plus déterminé? Ou pas forcément, il faut juste suivre son petit bonhomme de chemin et ça se fera.
Oui, il faut être quand même déterminé, parce que c'est vrai qu'après on arrive, même si c'est vrai qu'on dit la police est un métier d'homme, moi on me l'a fait un petit peu sentir quand je suis arrivée sur Paris. J'y avais, bon, pas tous les collègues, mais quelques collègues, des anciens, oui, tu serais mieux à la maison, va faire le ménage, je l'ai un petit peu entendu.
On répond quoi quand... Parce que ça, c'est peut-être bien de dire aux jeunes femmes, on répond quoi quand on entend ça?
Bah, on répond, on va voir ta femme, elle est chez elle, elle le fait, le ménage, ou... Mm-hmm.
Enfin, tout... faut répondre à niveau, quoi. Enfin...
Ouais, oui, il faut répondre... La réponse doit être aussi bête que la question, quoi. Mm-hmm. Donc, et puis après, on laisse, quoi. Indifférence.
Sur le conseil, est-ce que d'autres ont envie de répondre?
Face à ces réactions qui sont très, très limitées, est-ce qu'on n'a pas tendance à se blinder quelque part, à devenir plus dur qu'on est?
Non, parce qu'en fait, c'était que un ou deux collègues. Et puis j'étais jeune stagiaire, je venais d'arriver, donc c'est vrai qu'ils en profitent un petit peu. Mais sinon, les autres collègues du commissariat où j'étais, étaient vraiment très, très respectueux.
Je vous ai vu froncer les sourcils, l'une d'entre vous, en tout cas Nathalie Sheldrake, au moment où je disais, c'est peut-être des vieux collègues, une autre génération. Vous aviez l'air pas tout à fait d'accord avec ça. C'est quoi? C'est pas une histoire de génération, c'est une histoire d'homme?
Voilà, je crois que c'est pas une histoire de génération. En fait, des machos, il y en a toutes les générations. Mmh. Et je pense pas qu'il y en ait plus dans la police et dans la gendarmerie que dans la société.
Que dans le journalisme.
Voilà, ou dans le journalisme aussi. Bon, je parlerai moins d'expérience parce que je sais pas. Mais voilà, je crois que c'est pas lié ni à un métier ni à un âge. Moi, contrairement justement à Valérie, j'ai été plus confrontée à des difficultés quand je suis rentrée, donc à 23 ans, quand je suis arrivée comme inspecteur de police. J'ai eu plus de mal avec des jeunes collègues qu'avec des collègues plus anciens. Donc, vous voyez, je crois que c'est une question d'individu.
Marie-Christine Abinal.
Alors, moi, plutôt dans la rubrique du conseil à donner à de jeunes collègues, j'aurais tendance à dire... n'oubliez pas ce que vous êtes en toutes circonstances déjà, parce que ça c'est très important. N'essayez pas à tout va de vouloir vous identifier à un homme, puisque de toutes les manières vous venez avec votre bagage féminin. Donc restez ce que vous êtes, préservez votre partie de féminité qui est quand même déterminante, parce qu'elle a son rôle aussi, elle a sa raison d'être dans nos institutions, et ça il faut en être certain. Si on commence à vouloir muter, il faut quand même le dire, hein, muter, physiquement, psychologiquement, pour accéder à autre chose, on va se perdre. On va se perdre et on va perdre notre carrière. Donc il faut s'accrocher à ce qu'on est.
Alors on va finir avec le deuxième volet de cette question un peu piège. Qu'est-ce qu'on dit aux hommes qui travaillent avec vous? Est-ce que vous avez des conseils ou finalement il n'y a pas besoin de conseils? Enfin, voilà, alors Valérie Froment.
Bah, moi je leur dis de respecter leurs collègues par rapport à ce qu'elles sont, leurs collègues féminines par rapport à ce qu'elles sont et pas par rapport à leur grade. Donc le respect avant tout, qui est le respect de la femme par rapport à ce qu'elle est, qui respecte leur collègue féminine comme leur collègue masculin.
Pareil.
Ce qui n'est pas toujours le cas.
Mmh, c'est vrai. Mmh. Beaucoup hochent la tête autour de vous. Doriane Zambito, vous avez un truc à rajouter sur...
Pas vraiment, pas dans le détail. Il est certain, on ne va pas se voiler la face sur le fait qu'il existe des disparités entre les hommes et les femmes. Et moi-même, j'ai pu connaître, parce que j'ai fait 6 ou 7 unités, j'ai pu connaître dans d'anciennes unités certaines personnes qui ont tenu des remarques pour le moins vraiment ridicules. est blessante. Maintenant, pour rejoindre le capitaine Charles d'Oreille, je dirais que ça tient plus à la personne qu'au fait que ce soit un homme ou une femme. Mais ça existe, voilà. Et effectivement, je reprendrai le conseil de ma collègue en police et de dire qu'il nous respecte, oui, comme un égal, même si on ne demande pas à être légal, puisqu'on est fait différemment, mais qu'ils nous respectent dans le cadre de notre travail, comme ils respectent leurs collègues hommes.
Commandant Abinel, pour conclure sur cette question.
Moi qui ai parmi mes missions celle d'évaluer les compétences de mes collègues avec lesquels je travaille, eh bien, je peux vous dire que je n'évalue pas l'homme ou la femme. Avant tout, j'évalue les aptitudes et à chaque niveau auquel je suis confrontée, j'essaie de sortir de chacun le meilleur d'eux-mêmes, en définitive.
On va passer à la septième et avant-dernière question. Une question qui est adressée, Ludovic, qui sera posée par Ludovic Terrol et qui est adressée
à Isabelle Ouragé, qu'on n'a pas beaucoup entendu. On va pouvoir l'entendre à l'occasion de cette question. Pour savoir, c'est surtout par rapport à votre expérience personnelle, vous et tous les autres autour de la table. À savoir, peut-être la première fois, quand est-ce que vous avez ressenti qu'être une femme dans ce métier était un atout, et au contraire, quand est-ce que vous avez ressenti que c'était une limite ou un frein à exercer votre profession? Et peut-être vous présenter aussi.
Oui, donc je suis la maréchale logis Bragé Isabelle. Je fais partie des gendarmes adjoints volontaires administratifs. Donc, est-ce que le fait d'être une femme est un atout? Je ne crois pas que ce soit un atout ou un inconvénient. Je pense qu'il y a le caractère qui joue beaucoup, les compétences. Et surtout, dans le milieu militaire... on est tous des militaires, donc il n'y a pas vraiment cette notion-là d'homme ou de femme, enfin du moins en administratif, peut-être qu'au niveau du terrain c'est plus ressenti. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait eu de grosses différences.
Autour de la table également, est-ce que dans vos expériences respectives, vous avez connu à un moment un problème, un problème entre guillemets bien sûr dû à votre condition de femme pour exercer votre métier, ou justement, à contrario, un atout? Un avantage d'être une femme.
Nathalie Chalderoy.
Oui, alors je voudrais dire quand même que la maternité, ça reste quelque chose qui n'est pas facile. Bon, je pense que c'est pas lié spécialement au métier de policier ou de gendarme. Je pense que ça doit être la même chose dans toutes les activités professionnelles. Mais on a pu échanger tout à l'heure avec Doriane Zambito, et je crois que moi, ce que j'ai connu il y a... plus de 15 à 20 ans, c'est encore assez vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas facile pour une femme d'être mère, quand on exerce des métiers comme cela.
C'est pas facile parce qu'il y a la rupture des 6 mois du congé maternité, ou c'est pas facile parce qu'après on est maman et que c'est à vous, maman, de prendre les journées rubéole, rougeole et autres angines?
Alors,
c'est quoi le difficile?
6 mois, ça doit être un luxe. Parce que
on n'a pas les mêmes.
Voilà, j'ai pas connu 6 mois. Voilà.
C'est le service public, vous savez. Ah, vous aussi.
Oui, nous aussi, mais bon. J'en parle d'une...
Bon, allez, 3 mois, on y va.
Non, je crois que d'abord c'est difficile. Enfin, moi, je vais le dire. Hein, je voulais pas le dire, mais c'est vrai que j'ai caché ma grossesse quand je suis arrivée ici parce que, on était à l'époque quand même dans les clichés de une femme de toute façon, ça tombe enceinte, ça s'en va, ça tient pas au travail, etc. Et puis après, ça a toujours des soucis par rapport à la garde des enfants, des choses comme ça. Donc moi, je me suis astreinte à ce que ça ne soit pas un problème en fait. Mais c'est vrai qu'il faut faire des efforts. De ce point de vue-là, parce que les mentalités dans la police, je parle de ce que je connais, ont évolué aujourd'hui, puisque je trouve qu'il y a des hommes policiers qui se consacrent aussi à leur rôle de père. Qui prennent des congés. D'abord, ils ont un congé de paternité, les hommes.
Oui, mais aujourd'hui. Au-delà de ça, le congé angine,
c'est eux. Et en plus, maintenant, quand il y a des enfants qui sont malades, c'est vrai que moi, je vois dans mes collaborateurs, certains n'hésitent pas, effectivement, plutôt que leurs femmes qui travaillent dans d'autres secteurs, à effectivement assumer cette charge. Donc je trouve que c'est un progrès, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui n'est pas aussi évident que ça pourrait le paraître.
Est-ce que d'autres ont à réagir sur cet atout ou ce frein que pourrait être le congé maternité de 3 mois, j'ai bien compris.
Au-delà du congé de maternité,
Au-delà du congé de maternité, je pense que quand on porte une tenue d'uniforme, déjà, le problème se pose très très rapidement. C'est-à-dire, jusqu'où je peux porter ma maternité et l'uniforme. Donc il y a des règles qui sont bien définies. Alors vous imaginez que, bon, normalement, c'est au troisième mois, on propose à la future mère, parce qu'il y a des aménagements de poste automatiquement, on ne peut pas exiger non plus, on ne peut pas exposer la maman à ce que tout le monde peut rencontrer. Donc, au bout de 3 mois, on lui propose de retirer sa tenue et on aménage son poste. Mais bon, si ça se voit avant, on l'aménage avant. Et puis, bon, voilà. C'est aussi au niveau du management, ça implique aussi de prendre des précautions, d'anticiper sur une situation, de revoir le fonctionnement d'un service. Ce sont des réalités. Mais tout ça est admis, codifié, il ne pose pas de problème.
Alors là, on parle du frein que pourrait être la maternité. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question de l'atout. Il y a des atouts ou pas forcément? Enfin, non, ça vous laisse un peu perplexe au final. On revient sur le même schéma que tout à l'heure. Finalement, c'est quasi pareil. Enfin, il ne faut pas chercher un atout, atout pour le tout.
Je Nathalie crois quand même, enfin, moi, ce que je verrais comme un atout, mais bon, c'est peut-être plus personnel qu'une différence par rapport au sexe, c'est qu'il me semble qu'on a plus de facilité à laisser ses émotions venir dans des situations difficiles. C'est-à-dire que, bon, moi, il m'est arrivé de pleurer, pas de craquer, d'être émue par une victime qui vivait une situation difficile, dans des cas de décès, quand on doit annoncer des décès à des familles,
peut-être.
Et de l'assumer et justement d'en sortir plus fort après.
Parce que vous l'avez assumé sur le coup.
Voilà, alors que je pense que les hommes, peut-être, leur difficulté, mais bon, c'est que eux, ils se laissent pas, ils vont pas, un homme qui pleure, bon, ça reste encore quand même assez tabou. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Et peut-être que effectivement, c'est là-dessus qu'on a cet atout, c'est-à-dire qu'on est capable d'être ému, de le dire, et après de continuer à travailler malgré tout.
Valérie Froment.
Oui, donc je me souviens, moi, pour rebondir sur ce que dit le capitaine Charles Loreille, qu'à Paris, effectivement, c'est arrivé qu'il y avait des situations qui dégénéraient sur le terrain. Et quand les collègues ne savaient plus quoi faire, c'est vrai que j'intervenais pour essayer de dialoguer, de désamorcer la situation. Et 9 fois sur 10, ça fonctionnait, même avec du public en face qui était quand même très récalcitrant. Ou quand j'étais au poste, qu'il y avait des victimes qui venaient pour des attouchements sexuels qui s'étaient produits dans les trains, des tentatives de viol. C'est vrai que le fait d'être une femme... Je pensais que c'était un atout quand même. Je trouvais que c'était un atout parce que la victime, généralement c'était soit un mineur, une mineure ou une femme, voulait toujours que ça soit moi qui prenne la plainte, qui prenne l'audition, parce qu'elle avait plus de facilité
à se livrer.
Et après, mon côté sensible et dialogue faisait que ça passait beaucoup mieux.
Pour recevoir, en tout cas. Voilà, ouais. Patrick Zimmermann avait une micro-question.
Sur la route, avec la police de la route, cette mission bien spécifique, on sait tous que le gentil citoyen se transforme en abominable personnage dès qu'il est derrière un volant. Est-ce qu'il y a un rapport différent quand il est contrôlé par une femme ou par un homme?
Alors, Dorian Zambito.
Oui, je souhaite intervenir, pas pour répondre directement à la question d'abord, pour dire que c'est dommage qu'on ait toujours cette image où on véhicule l'image du policier ou du gendarme qui embête les gens sur le bord de la route.
C'est
parce
plus
que...
le gendarme.
Oui, a priori, parce que il faut quand même savoir, en tout cas, je parle pour moi et par rapport à mes expériences, j'ai fait très peu de police de la route. Dans ma carrière, j'ai fait 14 années déjà de gendarmerie et j'en ai très peu fait parce qu'on a beaucoup d'activités judiciaires tenant à la sécurité des personnes, aux difficultés qu'elles rencontrent. Ça va du simple vol au viol et j'en passe des meilleurs. Voilà. Après, pour ce qui est du contrôle sur la route, je crois que c'est pareil en étant un homme ou une femme. Quelques-uns vont essayer de vous faire du charme, mais certaines femmes arrêtées par des hommes vont essayer de leur faire du charme aussi. Donc finalement, ça tient toujours aux personnes.
Et des fois, c'est l'inverse. C'est le gendarme qui fait du charme.
Ça peut arriver.
Allez, on va passer à la huitième et dernière question. Une question que nous allons poser à Dominique Aguirre, qui a un regard un peu particulier, qui va nous expliquer pourquoi dans sa présentation. Et on va lui poser la question de la parité. Doit-on souhaiter la parité, ou est-ce qu'il y a d'autres modèles à inventer que la parité, c'est-à-dire la stricte égalité? Quel regard vous avez sur ça? D'abord, présentez-vous, dites-nous un petit peu qui vous êtes et quel est votre parcours très particulier au sein de la police.
Oui, alors bonjour, je suis Dominique Aguirre, j'ai 50 ans, j'ai œuvré 23 ans au ministère de l'Éducation nationale et j'ai demandé un détachement donc, au ministère de l'Intérieur, donc ce que j'ai eu, enfin, je suis en poste depuis le 3 septembre. Et c'est vrai que c'est tout à fait nouveau pour moi, enfin, tout ce qui concerne les tâches et les missions. Je n'avais pas l'habitude enfin, de côtoyer aussi beaucoup d'hommes dans ces métiers-là, parce que c'est vrai qu'en administratif, on est quand même beaucoup plus une majorité de femmes. Hein. Et c'est vrai, il faut le dire. Par rapport à ce que vous dites aussi, je pense que vous avez dit plus de femmes chez vous. Mm-hmm. Est-ce que nous... Non, vous avez dit plus d'hommes. Oui, donc on est beaucoup plus de femmes dans les milieux administratifs. Nous, au commissariat, là, nous sommes 8. Il n'y a qu'un homme, le pauvre, je me plains. Bon, moi, je travaille beaucoup aussi sur l'affectif. Donc, c'est vrai que c'est délicat pour moi parce que donc, il y a une majorité d'hommes au commissariat. Et je ne connaissais pas enfin, toutes les tâches, enfin, les missions. C'était vraiment nouveau. Quoique gérer un budget, que ce soit au ministère de l'Éducation nationale ou au ministère de l'Intérieur, c'est quand même gérer un budget aussi. Voilà. Donc il faut être irréprochable sur tous les fronts. Maintenant, par rapport à la parité, oui, je suis tout à fait pour la parité dans les métiers, que ce soit dans la police, dans la gendarmerie, chez les pompiers, enfin, dans tous les métiers. En administratif, c'est particulier aussi, parce qu'il y a des tâches différentes, mais qui sont aussi dans la polyvalence. Donc, mais je suis pour la parité aussi, oui.
Pas de nouveau modèle pour vous, voilà, la parité, ça va bien, la stricte égalité.
Égalité, je ne sais pas, parce que voilà, après au niveau physique aussi, comme on en parlait tout à l'heure, mais je trouve qu'aujourd'hui, les femmes sont aussi prennent soin d'elles et sont aussi très performantes en tout ce qui est sport et qualité de vie et hygiène de vie aussi.
Alors, est-ce que la parité fait réfléchir, fait sonner, fait gronder? Parce que des fois, c'est un mot qui fait un peu gronder, le mot parité, stricte égalité. Commandant Aminal, par exemple.
Ben, pour moi, la parité, non, c'est pas une question qu'il faut se poser dans ces termes-là, quoi. Il n'y a pas de parité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes fonctionnaires de police ou gendarmes? Est-ce que la qualité du service rendu au public sera meilleure, sera plus satisfaisante? Je le pense pas. Je pense qu'on a cette chance d'avoir une égalité au recrutement. Et puis après, eh bien, il faut laisser les choses se faire, quoi. La parité au niveau du commandement, au niveau.
Donc il ne faut pas forcer. Ça sert à rien de forcer les choses.
Non.
Valérie Froment.
Non, je rebondis de nouveau sur ce que disait Capitaine Chaldoreille. Je ne sais plus en quelle année où il y avait une affiche dans son bureau où c'était marqué la police un métier d'homme avec deux fonctionnaires masculins.
En képi.
Maintenant, on en est à la parité, donc il y a quand même un grand pas en avant.
On a fait du chemin.
Parce que maintenant, on en est à se demander la parité. Donc c'est quand même c'est un très grand chemin.
Du côté des gendarmes.
MDL Pichon, pour ma part, je dirais juste que je pense qu'il y a aussi moins de candidates que de candidats pour la police ou la gendarmerie. Et même si c'est perfectible, je pense que les femmes maintenant ont une place tout à fait légitime dans ces métiers-là. Et je tiendrai aussi à préciser qu'on est quand même une des rares professions, tout au moins pour les gendarmes, pour la police, je ne sais pas, où les grilles de salaire sont les mêmes.
Ah, c'est important ça. Ça, c'est la vraie parité. Est-ce qu'elle ne commence pas par là? Par l'égalité salariale.
Dans la police également.
Vous disiez, on est moins de candidates. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça pose un problème que vous soyez moins de candidates? Est-ce que quand même, c'est parce qu'il y a un frein psychologique à la base?
Je pense que les femmes sont peut-être moins attirées par ce type de métier. Après, non, il n'y a pas de frein. C'est plus effectivement une vocation, le type de métier qu'on aimerait faire, tout simplement.
Maintenant, dans les écoles de police, on voit par rapport aux années précédentes, dans les écoles de police, il y a de plus en plus
de femmes.
De femmes. Hein.
Et personnellement, aspirant Brias, quand je suis rentrée en école, on ne se posait pas cette question-là. Donc il n'y avait pas des caricatures de femmes, garçons manqués qui rentraient, qui disaient « je ne veux pas ressembler à le type même de la fifi ». C'était vraiment suivant le caractère et la personnalité. Quoi. Ils rentraient, ils ne se posaient pas la question de savoir si c'était un homme ou une femme. Quoi.
Très bien. On ne se pose pas la question. Ce gimmick, ce sera peut-être le gimmick qui sera revenu, parce qu'au final, ça fait peut-être partie de la conclusion. Alors justement, pour conclure cette émission et ce presque une heure, ça fait combien exactement que nous sommes ensemble ? 54 minutes que nous discutons ensemble de ce métier, de vos métiers, de vos beaux métiers. Nous allons laisser pour finir la parole à la directrice de cabinet du préfet, Agnès Chavanon, qui va conclure avec nous. Elle a écouté très attentivement vos 8 regards, vos 8 mots, vos 8 paroles de femmes, et de policiers et de gendarmes. Et vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez entendu d'abord.
Bonjour, donc Agnès Chavanon. Moi, je suis contente parce que j'ai autour de la table 8 femmes qui s'assument. C'est le maître mot que j'ai retenu. Elles ont toutes dit, on ne s'est pas posé la question de savoir si on faisait un métier d'homme ou un métier de femme. On est des femmes, on s'assume, on a choisi ça par envie ou parfois un peu par concours de circonstances pour certaines, mais vous êtes restées, donc c'est que ça vous plaît. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. J'ai retenu aussi quelques mots qui sont revenus souvent tout au long des différentes questions. On est différent. Un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Ça a un physique différent, ça a un caractère différent, et donc ça peut présenter des atouts, des avantages ou des inconvénients pour certaines choses, pour les uns, pour les autres. Dans le métier de policier et de gendarme, mais je suis sûre aussi dans beaucoup d'autres métiers, on parle de sage-femme, le seul métier vraiment féminisé. Alors maintenant, il existe des hommes, mais peut-être qu'en face, il y a des femmes qui préfèrent être accouchées par des femmes que par des hommes. Chacun ses compétences, ses qualités. Le deuxième mot qui est revenu, qui était toujours souvent, enfin, joint à cette première expression, c'est « on est complémentaires ». On n'est pas les mêmes, mais on est complémentaires, justement. On peut travailler ensemble et chacun a des choses à amener à l'autre. Ça, c'était le deuxième mot très important. Et le troisième mot, c'est, je reviens parce que on est complémentaires, mais on s'aperçoit quand même au travers des questions, on s'est posé la question, est-ce que vous faites un métier d'homme ? Est-ce que c'est différent ? On se pose encore les questions, et là, c'est tout le travail de fond qu'on a à faire, qui a beaucoup avancé déjà, c'est lutter contre les stéréotypes. Normalement, j'espère que dans quelques années, on n'aura plus à se poser la question. Est-ce que, comme vous êtes une femme, c'est bien d'être policier ? Est-ce que vous êtes un homme, est-ce que c'est bien d'être certains métiers plus féminins ? Est-ce que c'est coiffeuse pour dame ? Est-ce qu'on peut être un homme et coiffeur pour dame ? Avec tous les stéréotypes que ça met derrière, aussi bien donc pour les hommes que pour les femmes. Donc je pense que ça a évolué. Ça aussi, ça a été dit plusieurs fois. On a beaucoup évolué, on a avancé. Il faut qu'on continue encore.
Alors justement, j'ai une petite question subsidiaire pour vous. Est-ce que le fait de faire cette émission aujourd'hui ne pose pas finalement la question d'un cliché ? Est-ce que le fait de vous mettre tout autour de la table, c'est pas de dire ben voilà, ça existe, c'est bizarre, vous êtes... Enfin voilà, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Est-ce qu'on n'est pas justement en train de vous réunir toutes les 8 là, d'alimenter ce cliché en vous posant des questions telles que « Alors, vous avez l'impression de faire un métier d'homme ?»
Je pense qu'on en a encore besoin, qu'on a besoin encore d'expliquer. On l'a dit aussi à la fin, nous avons l'avantage, ici vous avez réuni des policiers et des gendarmes, donc qui sont des gens dans la fonction publique, où on a déjà une chose qui est magnifique, c'est que le salaire est le même, que vous soyez un homme ou une femme. Les critères de sélection pour monter dans les grades sont les mêmes. Ça a beaucoup évolué aussi. Hein. On parle aussi, on évoquait des entrées de concours, avoir les mêmes critères de concours écrits, même physiques. Donc c'est des choses qui sont en réflexion et qui se pratiquent. Donc on est effectivement, on est 8 femmes qui s'assument, enfin il y a 8 femmes qui s'assument. Avec aussi, je pense, dans des carrières où elles peuvent le faire. Je pense, pour connaître des gens dans le privé, où parfois c'est un peu difficile. Enfin, on le sait, c'est avéré, c'est identifié que les femmes gagnent salaire 25% inférieur à celui des hommes. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à en parler, de ces différences. Donc effectivement, il faut encore qu'on intervienne. Je rappelle aussi que le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme. C'est pas on est bien gentil, elle ne va pas faire la vaisselle ce jour-là. C'est des stéréotypes qu'on voit partout, hein, on reçoit tous ces petites blagues. C'est la journée des droits des femmes. Pour rappeler qu'une femme, elle a les mêmes droits qu'un homme. Alors on a obtenu les droits politiques, les droits civiques. Je rappelle que la possibilité d'ouvrir un compte en banque, c'est pas si vieux, hein. C'est les années 68, 65. Possibilité de l'autorité parentale partagée. C'est récent, c'est les années 70, alors on a obtenu ces droits. On a obtenu des droits encore économiques, puisque c'est reconnu l'égalité. Il y a eu des droits politiques. Poser la question de la parité, effectivement, je ne suis pas sûre qu'on doive mettre tout le temps, il faut exactement le même nombre de femmes que d'hommes, mais pour l'instant, on s'aperçoit que dans certains, sur certains thèmes, on n'a pas encore beaucoup de femmes. Donc on est obligé de passer par la loi pour imposer un peu plus de femmes. Mais ce que j'espère, c'est que l'évolution se poursuive. Ça s'est fait sur un temps relativement court, ça augmente, et qu'on passe vraiment à cette... qu'on mette fin aux stéréotypes et qu'on considère qu'un homme, une femme, c'est différent, ça peut faire les mêmes métiers, ça a les mêmes droits, et qu'à terme, effectivement, on arrête ces journées des droits des femmes parce que être femme ou être un homme, on aura les mêmes droits. Voilà.
Eh bien voilà, c'était la très jolie conclusion. Est-ce que Ludovic et Patrick, vous avez un mot à ajouter ? Ludovic Terrol ?
Oui, mais moi je suis ravi de cette émission, de voir des gens qui sont vrais. Je pense que c'est le plus important et on a retrouvé parmi vos expériences, vos ressentis, que vous vous assumiez totalement, donc vous êtes vrais et ça fait plaisir d'entendre des personnes comme vous. Après, je suis un peu déçu que personne n'ait parlé de Julie Lascaux, mais de pas tout avoir. Hein.
Patrick Zimmermann.
Alors moi je suis très content que la société soit en décalage avec la réalité, parce que effectivement au niveau des textes, une dame qui se promène à vélo ou à cheval n'est plus verbalisable depuis 7 années si elle est en pantalon. Voilà.
Voilà, c'était le mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir initié ce projet et de vous avoir réunis tous. Et j'espère que peut-être on va créer quelques petites vocations, qui sait. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres aventures.
Merci.
La journée du heure, c'est le plus...